RCF.
Poursuis avec vous, Père Bernard Mainvielle, cette question sur la méditation, sur la prière, essayer de mieux la comprendre à travers l'exemple des mystiques et des carmes. Je voudrais qu'on s'arrête sur la relation aux autres que peut justement peut-être transformer ou en tout cas changer la méditation ou la prière. Quel constat vous faites sur justement ce que vivent les mystiques ?
Eh bien, les mystiques sont à la fois des hommes de l'intériorité et des hommes de la relation. Et je crois qu'il nous aide beaucoup à prendre conscience que la personne ne se réduit pas à l'individu. La personne n'est pas seulement l'individu, centré sur lui. J'aime beaucoup ce que dit Emmanuel Mounier, à savoir que, donc ce grand philosophe du XXe siècle, qui nous rappelle que le propre de la personne n'est pas de séparer, mais de communier. Comprenons, le propre de l'individu est de fait sans cesse de se séparer, de se mettre à distance, de prendre soin de soi, de penser d'abord à lui-même, etc., etc. Le propre de la personne n'est pas cela, c'est d'entrer en relation, c'est de communier, c'est de s'enrichir de cette communion, alors sans non plus se perdre, et en même temps d'accepter une certaine perte de soi. Nous en faisons tous l'expérience dans un amour authentique ou dans une amitié véritable. C'est à la fois un enrichissement extraordinaire de notre personne et en même temps, ça passe par une certaine perte de soi. Nous savons bien que nous sacrifions pour une part nos goûts, nous sacrifions pour une part, par exemple, notre emploi du temps, etc. Mais c'est récompensé très largement par l'enrichissement qu'apporte une amitié et que refuser cela, c'est à terme se condamner à des relations de plus en plus pauvres et ultimement à la solitude d'hommes et de femmes qui seraient complètement centrés sur eux-mêmes comme des électrons qui se rencontreraient de temps en temps mais qui auraient chacun sa trajectoire propre sans se soucier du tout des autres.
Mais on sait bien que ça ne va pas de soi, c'est-à-dire qu'accepter l'autre tel qu'il est, on peut aussi le voir comme un effort. En quoi la méditation ou la prière peuvent nous conduire à vivre avec l'autre et à le laisser exister comme il est ?
On peut se poser la question, oui, en quoi la méditation de pleine conscience aide à cela ? Je ne sais pas. Tout dépend, je crois, de l'intention profonde. On peut très bien faire, je crois, de la méditation, il faut être lucide, on peut faire de la méditation de pleine conscience dans une perspective tout à fait narcissique, en cherchant simplement son bien-être personnel. Donc en soi, si vous voulez, la méditation n'est pas connotée ni dans un sens ni dans l'autre. Elle peut être tout à fait narcissique, individualiste, ou en même temps, elle peut être tout à fait portée sur l'altruisme et désireuse, par exemple, de progresser dans la présence à l'autre.
Il y a des exercices de bénédiction de l'autre, de penser du bien des autres.
Exactement.
Pendant la méditation.
Voilà, ça peut exister. Mais en même temps, je crois qu'il faut être conscient que la méditation peut aussi nourrir le narcissisme et finalement, je fais de la méditation simplement pour être mieux moi-même.
Mais certains vous diront qu'en étant mieux avec vous-même, vous serez mieux avec les autres.
Alors voilà, c'est pour ça. Moi, je crois que, si vous voulez, la méditation comme telle, c'est un outil. Moi, j'ai envie de dire c'est un outil. Et on en fait ce qu'on a envie d'en faire. Et si de fait, beaucoup de personnes qui vivent la méditation, qui la pratiquent, le vivent avec, de fait, cette perspective de pouvoir, grâce à cela, enrichir leur relation avec les autres, ne serait-ce, par exemple, qu'en acquérant davantage de calme, de self-control, etc. Et donc, de fait, ça peut être un très beau chemin pour grandir dans la relation avec autrui. Maintenant, si je me tourne vers les maîtres du Carmel, leur témoignage à tous, c'est que l'amour qu'ils donnent et qu'ils donnent d'une manière bouleversante quand on les regarde les uns et les autres, est un amour qu'ils ont reçu. Alors,
c'est parfois un amour qui leur coûte aussi.
Oui, oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, on serait devant des météorites, on les regarderait en se disant, mais quels sont ces extraterrestres qui n'ont rien à voir avec nous? C'est intéressant de voir leur combat, de voir que Thérèse de Lisieux, par exemple, une des sœurs de la communauté, elle ne pouvait pas la voir en peinture. Et en même temps, elle fait vraiment ses efforts pour que l'autre ne s'en aperçoive pas, si vous voulez. Et donc, pour que sa relation avec l'autre ne soit pas seulement dépendante, je dirais, de la sympathie ou de l'antipathie. Aller au-delà, vous voyez. Pouvoir fonder une relation avec l'autre qui aille au-delà de la première réaction, de l'affectivité simplement. Voilà.
Qui coûte, en fait. D'ailleurs, elle le dit, c'est incroyable comme cela me coûte.
Et c'est tout à fait, oui. Je crois que j'aime parce que je veux aimer. Ça, c'est peut-être quelque chose à redécouvrir. On a trop lié l'amour simplement à l'affectivité et au ressenti. Alors, de fait, ça fait partie de l'amour. Il ne faut pas gommer ça non plus. Mais je crois que, fondamentalement, l'amour est lié à la volonté. Est-ce que, oui ou non, je décide d'aimer cette personne? C'est vrai que ce soit, je dirais, simplement la relation de bon voisinage ou la relation de travail avec un collègue dans la vie professionnelle, mais c'est vrai évidemment dans la vie conjugale, dans la vie familiale, dans l'amitié. Par moment, j'aime l'autre parce que je veux l'aimer aussi.
Aussi cette patience dont fait preuve Thérèse, mais ce qui est intéressant, c'est que même si parfois elle supporte l'insupportable, à d'autres moments, elle s'enfuit. D'ailleurs, elle dit « Lorsque mes efforts étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. » C'est-à-dire qu'elle accepte aussi de ne pas complètement maîtriser son présent. Et peut-être que c'est ça aussi la différence entre la méditation et la prière, au fond. C'est-à-dire qu'on le disait, l'objectif à atteindre n'est pas forcément celui qu'on arrivera à atteindre, et quand bien même on n'y arriverait pas, eh bien, on peut toujours être rejointe par Dieu.
Oui, là, je vais défendre un petit peu la méditation de pleine conscience dans la mesure où elle aussi est très attentive, je dirais, à acquérir de plus en plus une forme de détachement vis-à-vis des résultats. Dans la méditation de pleine conscience, on vous dira très souvent, il n'y a rien à gagner ni à perdre dans la méditation de pleine conscience. Il n'y a pas de méditation réussie ou au contraire, un échec. Et il y a, en tout cas, le désir de ne pas se juger, voyez, de pas revenir et de pas passer son temps à analyser est-ce que j'ai fait une bonne méditation, une mauvaise méditation. C'est complètement hors de propos.
Il y a de la gratuité dans la méditation.
Il y a de la gratuité, je pense. Oui, oui. Mais alors, si maintenant je passe versant prière, la gratuité, de fait, est au cœur, d'abord parce que dans la relation, et ça, je dirais, c'est vrai de toute relation humaine, mais c'est vrai aussi dans la relation à Dieu qu'ont les mystiques, les spirituels. On n'est pas dans le donnant-donnant. On est sur un autre plan. On n'est pas dans le donnant-donnant. On est dans une forme de, voilà, je me donne à toi. Bon, c'est la définition que donne Thérèse de Lisieux. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Point barre. Alors, en même temps, elle n'est pas dupe. Elle sait très bien qu'elle est beaucoup plus enrichie qu'elle ne donne dans cette relation.
Mais c'est peut-être ça aussi que les chrétiens n'osent peut-être pas reconnaître. C'est-à-dire que oui, il y a un bénéfice de la prière.
Il y a un bénéfice, oui, très clair.
Et peut-être juste dire qu'on se donne à Dieu, qu'on va dans la relation à Dieu, qu'on est là parce qu'il est là, ce serait peut-être un peu hypocrite.
Thérèse d'Avila, alors donc l'espagnole du XVIe siècle, hein, la madre. Thérèse d'Avila dit « Entre Dieu et l'âme, entre Dieu et le cœur, entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la femme, dans la prière se passent de grandes choses. » Se passent de grandes choses. Il y a une évolution qui se fait. Alors, on ne la mesure pas, évidemment, et peut-être tant mieux. En tout cas, on ne la mesure pas sur 2 semaines. Mais il y a un travail qui se fait. Alors, là encore, la prière peut-être Enfin, il ne faut pas être dupe. Il peut y avoir une forme de prière qui renferme sur soi. La prière renvoie sur les autres aussi. Hein. La prière, les mystiques ne coupent jamais la prière de la lecture de la parole, avec un peu cette idée que dans la prière, oui, c'est moi pour une large part qui parle à Dieu, mais dans la lecture de l'Écriture, c'est lui qui me parle. Et donc, il faut, vous voyez, ce renvoi mutuel de la prière vers l'Écriture, de l'Écriture vers la prière.
Et vers les autres.
Et vers les autres. Et de fait, l'Écriture renvoie vers les autres. L'écoute de la parole de Dieu, que ce soit dans notre conscience, que ce soit dans la prière ou à travers l'Écriture, et à travers aussi les appels et la rencontre de l'autre, nous renvoie à son service.
C'est donc ce que vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage, vous dites bien, quand bien même on aurait de nombreuses heures de bonne qualité auprès de Dieu, quand bien même on aurait des extases extraordinaires de mystique, eh bien si il ne se passe rien auprès des autres, alors c'est vain.
Tout à fait, oui. Ça reste toujours le grand critère de, je dirais, d'appréciation de la vie spirituelle. C'est pas dans les extases ni quoi que ce soit de cet ordre, c'est où en es-tu de ton amour ? Est-ce que ça se traduit, oui ou non, d'abord avec ton plus proche ? Si avec celui avec qui tu vis, t'es toujours aussi exécrable, c'est que ta prière est un vain mot.
Merci beaucoup, Père Bernard Mainvielle. On vous retrouve demain.